À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question de Paul Doncoeur. C'est un beau nom de famille, Doncoeur, comme s'il avait donné son cœur, et c'est le cas. C'est un jésuite français, un éducateur, un cœur de feu. Il a beaucoup influencé le Québec, particulièrement les scouts, le scoutisme et les routiers, la formation d'une certaine jeunesse courageuse ici au Québec autrefois. Il est mort en 1961. Paul Doncoeur a fait sa marque dans les années 20 en France d'une façon assez particulière. Il y a 75 ans, le 11 mai 1924, il est arrivé quelque chose d'assez dramatique pour les catholiques de France. Ça ressemble un peu à cette histoire du rapport Proulx qui nous crée certains problèmes ici par rapport à l'enseignement religieux dans nos écoles, n'est-ce pas? C'est que la gauche française, celle qu'on considère comme assez radicale et anti-catholique, emporte les élections le 11 mai 1924. Son chef, son leader, comme on dit en France, on utilise souvent des termes anglais, eh bien, Édouard Herriot, devenu président du Conseil, il forme un gouvernement absolument radical, justement. Il est assuré d'une forte majorité à la Chambre des députés. Et qu'est-ce que va faire ce monsieur Herriot? Bien, il annonce aussitôt que le gouvernement va appliquer, dit-il, dans leurs lettres et dans leur esprit, les lois laïques. Les lois laïques, c'est-à-dire des lois qui vont laïciser tout, tout, tout. Ils avaient fait ça déjà au début du siècle, en chassant toutes les communautés françaises. Toutes les communautés religieuses ont dû quitter la France, sauf exception. Alors, il va prendre les mesures nécessaires, ce monsieur Herriot, pour supprimer l'ambassade au Vatican, rétablie 4 ans plus tôt, en 1920, etc. Puis, il va réaliser ce qu'il désire, l'école unique. C'est une formule un peu équivoque que cette idée de l'école unique, qui, selon un grand historien très brillant qui était André Latreille, semble bien annoncer, dit-il, la fin de la liberté d'enseignement si souvent menacée. Notre liberté d'enseignement est menacée au Québec, et là-bas, elle a été très souvent menacée. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer avec le père Doncoeur. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ça vous dit quelque chose, tout ça, hein? Le rapport Proulx et tout ça, et tout ce qui a paru dans les journaux, à la télévision depuis des mois et des mois. Et un tel programme a fâché bien du monde en France. C'était au lendemain de la guerre, 1914-18, alors que les moines et les religieux que le gouvernement français avait forcé de s'exiler, comme je vous ai dit, en 1904, au début du siècle. Mais ces moines-là, ces religieux, pendant la guerre, ils sont revenus. Pourquoi? Pour se dévouer, pour remplir leur devoir de citoyens français. Et tout ça, ça apparaît aux catholiques français comme une provocation scandaleuse que de vouloir revenir encore à la persécution de ces gens qui, souvent, ont terminé la guerre avec des décorations, des honneurs extraordinaires de dévouement, des moines, des religieux. Le député de la Moselle en France, qui était Robert Schuman, vous connaissez peut-être Robert Schuman, je vous ai déjà dit que je vous ferai une émission sur lui, ça me tente toujours de plus en plus parce que sa cause de canonisation est introduite à Rome. Un député, oui, c'est assez extraordinaire, Robert Schuman, qui disait son bréviaire, qui allait à la messe tous les jours, qui était un homme d'une grande charité. Et c'est lui qui, à la fin de la guerre, de la dernière guerre, en 45, a été le premier à tendre la main aux Allemands pour leur pardonner et ressusciter l'Europe. Alors Robert Schuman, le député de la Moselle, monte à la tribune de la Chambre des députés pour protester vigoureusement. Et quelques jours plus tard, c'est le tour de l'évêque de Strasbourg qui demande aux Français de se porter à la défense des libertés religieuses et particulièrement du système d'enseignement. Puis un jésuite, donc, le père Paul Doncoeur. Lui, il publie une lettre ouverte au président Herriot qui, reproduite en affiche, là, puis placardée un peu partout, signifie clairement que les religieux et les religieuses ne prendront pas une deuxième fois le chemin de l'exil. Ils ne quitteront pas la France, leur pays. Et voici le texte intégral. Je ne vous le lis pas tout à fait au complet. de ce document historique qui a pour titre « Nous ne partirons pas ». Écoutez bien, ça c'est fantastique. Hein? Paul Doncœur, c'est tout un homme, jésuite. Il déclare « Monsieur Hériot, du haut de la tribune française, nous montre la porte. Nous, pauvres bougres de religieux, rentrés en France le 4 août 1914 pour la bataille. Eh bien non, nous ne partirons pas. Pas un homme, pas un simple novice, pas une femme ne passera la frontière. En 1901, quand a été votée la loi infâme, c'est la fameuse loi Combes, qui chassait de France tous les religieux et les religieuses, j'étais tout jeune jésuite. J'ai fait comme les autres et j'ai pris le train pour la Belgique, honteusement. J'ai vécu 12 ans en exil. Et donc, de l'âge de 22 ans à 34 ans, j'ai vécu en Belgique. Je vous le pardonne, mais le 2 août 1914, à 4 heures du matin, au début de la guerre, quoi, j'étais chez mon supérieur et je lui ai dit, c'est demain la guerre, ma place de français est au feu, c'est-à-dire dans les rangs de l'armée. Et mon supérieur m'a béni et m'a embrassé. Il voulait être aumônier, n'est-ce pas? Par des trains insensés, sans ordre de mobilisation, sans livret militaire, il dit, j'ai couru au canon jusqu'à Verdun. Le 20 août, à l'aube, avant la reprise du combat, à la recherche des blessés du 115e, j'avançais au-delà des postes quand tout à coup, j'ai été enveloppé par le craquement de 20 fusils et j'ai vu mon camarade étendu de tout son long contre moi, sur la route, la tête broyée. Le poste allemand était à 30 pas. J'ai senti à ce moment-là que mon corps protégeait tout mon pays. Jamais je n'avais respiré l'air de France avec cette fierté, ni posé mon pied sur sa terre avec cette assurance. Je ne comprends pas, ajoute le père Paul Doncœur, je ne comprends pas encore comment je ne fus pas tué, alors ni 20 fois depuis. Le 16 septembre, j'ai été fait prisonnier, devant Noyon, en plein combat. En novembre, toujours 1914, j'étais de nouveau en France. Et en décembre, je retrouvais le feu. Je me suis battu 30 mois, jusque devant Mézières. J'ai été 3 fois blessé. Je garde sous la horte un éclat d'obus. Et démobilisé, j'ai commis le crime de rester chez moi. Et maintenant, Monsieur Hériot, vous me montrez la porte. Vous voulez rire, Monsieur Hériot. Mais on ne rit pas de ces choses. Jamais pendant 50 mois, vous n'êtes venu me trouver. Je ne vous ai vu nulle part me parler de vos lois sur les congrégations. Et vous osez me les sortir aujourd'hui? Vous n'y pensez pas. Ni moi, ni aucun autre. Car tous ceux qui étaient en âge de se battre se sont battus, ni aucune femme. Nous ne reprendrons la route de la Belgique, cela jamais nous ne quitterons pas la France. Vous ferez de nous ce que vous voudrez. Vous prendrez nos maisons, vous nous ouvrirez vos prisons. Il s'y trouve en effet des places laissées libres par qui vous savez. Soit, c'est les Allemands qui sont partis. Mais partir, comme nous l'avons fait en 1901, jamais. Nous avons aujourd'hui un peu plus de sang dans les veines qu'alors, et puis, soldats de Verdun, nous avons appris au bon moment, aux bons endroits, ce que c'est que s'accrocher à un terrain. Nous n'avons eu peur ni des balles ni des gaz. Et je vais vous dire maintenant pourquoi nous ne partirons pas. Ce n'est pas de partir n'importe où qui nous effraie, non. Nous ne tenons à rien, ni à un toit, ni à un champ. Jésus-Christ nous attend partout et nous suffira toujours au bout du monde. Mais nous ne partirons plus parce que nous ne voulons plus qu'un Belge ou qu'un Anglais ou qu'un Américain ou qu'un Chinois ou qu'un Allemand nous rencontrant un jour loin du pays, nous pose certaines questions auxquelles nous répondrions encore, comme jadis, en baissant la tête, Oh, la France nous a chassés. Et pour l'honneur de la France, monsieur Hiriot, entendez-vous ce mot comme je l'entends? Pour l'honneur de la France, jamais nous ne dirons plus cela à un étranger. Donc, nous restons tous. Nous le jurons sur la tombe de nos morts. Évidemment que une lettre comme ça adressée au président de la France par un jésuite, c'est un retentissement extraordinaire. Les catholiques français, enthousiasmés, circulent partout, tandis que se constitue la Ligue des religieux anciens combattants, qui lance le slogan « Égaux comme au front ». L'Assemblée des cardinaux et les archevêques de France charge le général de Castelnau d'organiser la Fédération nationale catholique. Puis en 1925, l'année suivante, elle compte 82 groupements diocésains et 1 800 000 hommes, chiffre qu'aucune organisation politique ou syndicale n'a jamais atteint. Tout ça à cause du Père Doncœur. À son appel, des foules d'hommes affirment dans des meetings du nord au sud et de l'est à l'ouest de la France le refus catégorique de la politique gouvernementale, de l'abolition des écoles catholiques en particulier. Au premier rang des orateurs, donc, le Père Doncœur et l'abbé Berger, B-E-R-G-E-Y, député de la Gironde, il y avait des prêtres qui étaient députés à l'époque. On en a eu ici, comme Louis O'Neill. Et l'un et l'autre, la poitrine couverte de décorations gagnées à la guerre, se détachent comme des figures de proue, si on peut dire, n'est-ce pas, de la résistance catholique. Et le président Hiriot est tout à fait décontenancé par une riposte dont il n'a absolument pas prévu l'ampleur. Le président Hiriot n'ose pas appliquer son programme. Il ne s'est pas rendu compte que l'anticléricalisme, ça ne marche plus. Être anticatholique, ça ne le mène nulle part. Hein? Et ça me rappelle les déclarations dans Le Devoir du 22 mars. Déclaration de Georges Leroux, un philosophe plutôt incroyant de l'UQAM, qui déclare qu'il redoute qu'une laïcisation complète du système scolaire au Québec n'entraîne un déficit religieux et spirituel, qui renforce la logique consumériste et matérialiste de notre société, et que cela rende les jeunes plus vulnérables à des courants irrationnels et sectaires. Hein? Les jeunes tombent dans des choses folichonnes, puis dans des sectes. Pour lui, pour Georges Leroux, pour lui, la religion doit renvoyer à une expérience à tout le moins historiquement située. Et c'est ça le drame ici. Pouvons-nous vraiment abandonner toute une histoire, toute une formation qui permet à notre peuple de comprendre les grandes œuvres chrétiennes du dernier millénaire ou des deux derniers millénaires? Des œuvres littéraires autant que des cathédrales, des œuvres musicales que les cantates de Bach, les grands romans, les œuvres fantastiques, et de comprendre toutes sortes de choses, d'où nous venons, qui étaient nos ancêtres. C'est très grave la situation qui nous est faite si on ne veut plus enseigner quoi que ce soit à nos enfants. Alors, on imagine bien qu'après un tel événement, la France entière connaît le Père Doncœur, Paul Doncœur, qui, au lendemain de la guerre, avait envisagé une toute autre forme d'action, lui. Son audience dépasse les frontières de la France. Il va à Cologne, Köln, à côté de Konrad Adenauer, un autre éminent catholique, maire de la ville. Il dénonce les torts réciproques de la France et de l'Allemagne, qui ont combattu. Il appelle les deux peuples à la réconciliation. Et le Père Doncœur propose aux catholiques des deux pays, écoutez bien, la lutte contre le paganisme renaissant. Comment faire? Il dit que c'est par le témoignage d'une vie chrétienne vraiment inspirée de l'Évangile. Alors il tend la main aux Allemands, comme Robert Schumann, dont je vous parlais tout à l'heure, va l'attendre après la guerre 39-45. On voit aussi le père Doncœur ailleurs. Je vous dis pas tous les endroits où on le voit en Allemagne, mais il rencontre au bourg de Rottenfels l'aile marchande de la jeunesse catholique allemande et son animateur qui n'est nul autre que Romano Guardini. C'est un Allemand, Romano Guardini, en dépit de son nom italien. Très fameux, Romano Guardini. Vous le connaissez probablement la plupart d'entre vous pour ses deux beaux volumes sur le Seigneur et quantité d'autres ouvrages admirables. Mais qui est donc ce père Doncœur? Eh bien, il est né à Nantes le 6 septembre 1880. Paul Doncœur a passé son enfance comme aîné de 8 enfants à Verdun, puis ensuite à Chartres, à Sedan, à Saint-Omer. Comment ça? Déménager? Oui, son père était officier de cavalerie. Puis il tenait garnison. Oui, les officiers, à cette époque, avaient des chevaux, officiers de cavalerie. L'éducation, je dirais, virile qu'il reçoit dans ce foyer, c'est ça qui a façonné cet homme intrépide qu'il va devenir, le père Paul Doncœur. Et dès l'enfance, il apprend la langue allemande, qu'il va maîtriser parfaitement, d'ailleurs. Pas facile, ça. Adolescent, il pratique des sports intéressants comme l'équitation, l'escrime. L'équitation, c'est normal, son père est officier de cavalerie. Hein? L'équitation, l'escrime, c'est un beau sport, ça aussi. Puis la natation, encore un autre beau sport. Bachelier, Paul Doncœur quitte tout ça. Il entre à 18 ans au noviciat des Jésuites d'Achel, près d'Amiens. Et le 10 octobre 1900, il prononce ses premiers vœux à 20 ans. Il prononce ses premiers vœux à 20 ans déjà, sans gage. En 1902, il est obligé à l'exil par les lois d'exception dont je vous ai parlé pour rester fidèle à sa vocation, puis il poursuit ses études à Jersey, qui est une île, n'est-ce pas, au sud de l'Angleterre. Il obtient une licence de lettres, puis il enseigne en Belgique. Et le 25 août 1912, donc, Paul Doncœur est ordonné prêtre. Il a presque 32 ans. Je vous ai parlé du 4 août 1914 tout à l'heure. Vous savez, il revient en France pour combattre, pour être aumônier. Alors, il part, toujours en soutane de jésuite, pour Paris. Et à la gare de l'Est, il saute dans un convoi de mobilisés en partance. Et on lui crie « Montez, montez, monsieur le curé, montez, on est tous des camarades. » Comme quoi la soutane ne faisait pas peur. Il va garder toujours le souvenir de cet accueil populaire qui efface d'un coup les souffrances de l'exil. Il n'en doute pas. Sa place de prêtre est bien au milieu du peuple mobilisé pour la guerre, appelé à vivre dangereusement, à mourir, pour défendre son pays. Aumônier, il est fait prisonnier devant Noyon parmi les blessés qu'il assiste dans une ferme. Il est donc amené en Allemagne. Mais là, comme il est prêtre, il demande au général commandant le secteur, là, son rapatriement. Puis il l'obtient. Formidable. Aussitôt revenu en France, il sollicite son retour au front pour y être prêtre. Aumônier de nouveau, il participe aux batailles de Champagne, de Verdun, de la Somme. C'est des grandes batailles, ça. De la guerre 14-18. Et le 16 août 1916, il est blessé. À l'armistice, au mois de novembre 1918, cette citation et la Légion d'honneur attestent de son courage indomptable. Et 4 ans durant, donc, il a vécu avec les combattants. C'est très important. Il a assisté et vu mourir 10 000 soldats. Prêtre, le père Paul Doncœur a parlé de Jésus-Christ, donc, à des ouvriers, à des paysans, à des bourgeois sous les armes. Il leur a communiqué son espérance invincible. C'était un homme d'espérance que Paul Doncœur. Et c'est pour lui une expérience décisive que ce contact avec la masse des chrétiens. Au front, dans les tranchées et les casemates des forts, là, ils dialoguent la messe avec les soldats. Ça se faisait nulle part en France, dialoguer la messe. Dire simplement « Dominus vobiscum » puis faire que les gens répondent « Et cum spiritu tuo ». Ça ne se faisait pas. C'était le servant de messe qui répondait « tout le monde était silencieux. C'était comme ça même à la fin de la dernière guerre. Puis, surtout, le père Doncœur fait quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Il commente l'évangile du jour. Comme l'ont fait des grands saints à travers les siècles, il commente l'évangile du jour sur un mode familier, incisif. C'est un homme qui a du feu. Puis avec des mots de tout le monde. Pas du joual nécessairement ou de l'argot. Non, des mots simples. On comprend que le père Doncœur ait souffert au lendemain de sa démobilisation de se trouver séparé du monde des soldats qu'il aimait, de mener une vie différente de celle de ses compagnons d'armes revenus à leur travail. Il déclare à un ami, « Ah, quand j'entends de ma chambre le piétinement matinal des hommes qui vont à leur travail, je me dis que c'est fini et que je ne serai jamais plus de la troupe de ceux-là là, qui travaillent de leurs mains et qui bouffent, qui blaguent, qui aiment le gros rouge, le gros vin rouge, et qui se battent et meurent tout à coup. » Alors, sur les tombes des morts de la guerre, le père Doncœur a juré de rendre au pays un culte, une âme et une foi. Il veut refaire de la France une France catholique vraie. Alors, il se tourne vers les jeunes. Il sait que la génération nouvelle ne rêve que de joie facile et que l'héritage des aînés ne l'intéresse pas. C'est comme au Québec, hein? Mais n'importe. Lui, le père Doncœur, il va parler de cet héritage à des jeunes, dans plusieurs collèges, d'une telle manière que quelques-uns vont tendre l'oreille. Et à ceux-là, il propose un idéal suivant, écoutez bien, la splendeur humaine par le christianisme intégral. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il leur dit que l'amour de la vie qui chante dans leurs veines, là, peut se concilier avec les exigences de l'Évangile. C'est des grandes exigences que celles de l'Évangile. C'est pas fait pour les gens étendus sur des futons. C'est fait pour des jeunes gens debout. Alors, il les place dans la vision positive du Christ vivant. Il les rend responsables de la reconstruction chrétienne de la France. Et nos jeunes ici au Québec sont aussi responsables de la reconstruction chrétienne de notre pays. Dans un de ses livres, « La sainteté de la femme », qui renferme 4 conférences du père Paul Doncœur, Paris en 1938, il prend position d'une façon qui va complètement à l'encontre du mouvement féministe le plus connu actuellement. Je trouve ça en page 38-39. Mais il y a un autre mouvement féministe qui a surgi en Allemagne il y a quelques années et qui se répand et qui rapporte un peu les idées que je vais vous lire que l'on n'entend plus jamais. Je les lis à la mémoire de ma mère, de nos mères. Car c'est écrit ici, de la main du père Paul Doncœur, le lieu de votre sainteté, c'est, je le répète, la maison. La maison rendue par vous, femmes et mères, habitable, charmante et féconde. Il nous faut marquer quelle sera la source d'où jaillira cette grâce. Car si la maison est devenue souvent aujourd'hui presque inhabitable, si l'homme l'a désertée, si la femme n'y trouve que dégoût, si les enfants s'en échappent avec impatience, c'est parce que le foyer s'est éteint, qui la rendait chaleureuse, lumineuse, florissante de santé et de joie. La maison morte a perdu son âme. Comment se pourrait-il qu'on l'habitât autrement qu'un hôtel banal, comme des étrangers de passage, puisque l'amour, qui rassemblait les cœurs, s'est le premier enfui? Hors de cet amour, mesdames, c'est vous qui avez la garde de par Dieu, et c'est de votre sainteté de femme qu'il dépend. Oh, je sais qu'on ne m'aimera pas d'avoir lu ce texte du père Doncœur. Je l'ai lu quand même. Chacun a droit à la liberté de parole, et le père Doncœur, le premier, puisque l'on le fête aujourd'hui. Et si le père Doncœur écrit, il ne fait pas qu'écrire, il a aussi écrit la préface à ce beau visage, à ce beau livre, Le vrai visage des saints. Avez-vous déjà vu ces 150 portraits publiés par Desclés de Brouwer en 1955? C'est lui qui a écrit la préface. Il parle des saints de façon admirable. Je vous ai dit que le père Doncœur a écrit bien des choses, prononcé d'innombrables conférences. Il est venu même au Québec. Mais comme je vous ai dit, il ne se contente pas d'écrire, et pour permettre à des jeunes de vivre le christianisme intégral qu'il propose, il lance la formule des camps cadets. Qu'est-ce que c'est ça, des camps cadets? Il s'agit d'une retraite en plein air de 30 jours. 30 jours où chacun révise sa vie et repense le christianisme. Oui, pour des jeunes de 15 ans. Entraînés par lui, des garçons marchent vers un haut lieu dans sur les routes d'Europe, là, puis de même jusqu'en Palestine, devenue Israël. Les étapes sont dures, hein? 25 à 30 kilomètres. Les campements frustrent. La nourriture est frugale. Et dès le premier jour, le père précise le but du camp. Vous allez être surpris. Écoutez bien ça. Vivre en état de grâce. Savez-vous ce que ça veut dire, vous les jeunes, vivre en état de grâce? Ça veut dire être en union intime avec la présence de Dieu en nous, en se détachant des péchés qui causent ce qu'on appelle dans un sens la mort de l'âme. Des péchés qui détruisent petit à petit le goût de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité à Dieu, à Jésus. Vivre en état de grâce et vivre en vie. Et pour lui, pour Paul Doncœur, c'est à prendre ou à laisser. Et que ceux qui veulent vivre ainsi le suivent. Et alors, la journée commence évidemment par la messe, l'Eucharistie. On célébrait toujours la messe le matin dans ce temps-là. Car il fallait être à jeun depuis minuit. Et la journée s'achève autour du feu du soir par un commentaire de l'Évangile de Saint Jean, ou bien des épîtres, les lettres de Saint Paul. Et puis le chant de compis, comme dans les monastères. Les jeunes, avez-vous déjà été dans des monastères entendre les moines chanter à la noirceur les compis avec une statue de la Vierge au juché, là, qui est éclairée? C'est très impressionnant. Alors, les jeunes sont purifiés par la difficulté de la marche, ce qu'on pourrait appeler l'ascèse, si vous voulez, de la marche. Ils sont ouverts aux autres par la vie communautaire du groupe, les contacts avec les populations qu'ils rencontrent sur la route. Les jeunes sont nourris de la parole de Dieu puis de l'Eucharistie. Ces garçons s'engagent à la fin du camp à travailler au relèvement spirituel de la France et à témoigner, mot alors peu courant, dans leur vie quotidienne de l'Esprit du Christ. Et la même chose s'est pratiquée ici au Québec, en particulier un peu plus tard chez les routiers du clan Saint-Jacques. Tandis que les premiers cadets du Père Doncœur prennent leur départ, le scoutisme catholique se développe, ses chefs se préoccupent de la formation des aînés, les routiers, justement. Et alors, le Père Doncœur leur apporte son aide. Il a saisi, lui, toute l'importance de ce mouvement. Puisque le scoutisme attire beaucoup de garçons, des milliers d'adolescents passeront à la route. Ils seront routiers. Et l'on peut espérer qu'ils contribueront demain à rebâtir la société et la famille française. Le Père Doncœur devient aumônier national de la route, des origines jusqu'en 1934, puis de 1941 à 1945, pendant la guerre, il déploie une activité inlassable auprès des jeunes, tout en restant rédacteur à la fameuse revue Études, la revue publiée par les Jésuites depuis très très longtemps et qui est toujours publiée. Une revue savante. Il invente la formule des Noëls routiers. Qu'est-ce que c'est? Dans des banlieues, là où des paroisses rurales sans prêtres, on fait une veillée avec la population, puis à célébration de la messe de minuit. Le Père Doncœur appuie les essais de théâtre actif de Léon Chancerelle, puis des comédiens routiers. Le Père Paul Doncœur contribue au renouveau aussi du chant choral. À la fondation du mouvement à cœur joie, il fonde les cercles Saint-Paul pour l'étude de la Bible et le cercle Sainte-Jeanne pour les cheftaines. Il entraîne toute une jeunesse vers Dieu. puis il a la satisfaction de voir au Puy-en-Velay. Êtes-vous déjà allé au Puy-en-Velay en plein cœur de la France? Eh bien, en août 1942, il voit le plus émouvant pèlerinage de jeunes que la France ait connu dans son temps. 10 000 jeunes. Pas grand-chose comparé aux millions et plus que le pape a réunis il n'y a pas longtemps à Paris. Hein? Mais quand même, routier lui-même, au camp, aux veillées, pendant les pèlerinages, perdons cœur, parle un langage qui est chargé de sa propre expérience et qui éblouit les jeunes. Il jongle pas, lui, avec les idées, mais son cœur d'homme, de prêtre, touche les cœurs de 20 ans. C'est un athlète du Christ, le père Doncoeur. Quel jésuite! Devant un feu de camp, il parle de la Vierge et du Christ. On le sent habité par l'Esprit-Saint. Il est exigeant envers lui-même, mais il est compréhensif, il est accueillant. La certitude du salut l'illumine. À l'entendre, on comprend que la vie n'est pas autre chose qu'une marche vers Dieu, puis que l'homme, qui est co-héritier du Christ, n'est-ce pas, est promis au bonheur éternel. Se donner au Christ pour mieux se donner à Dieu notre Père dans l'unité de l'Esprit. Dieu répond à ce don. Sanctifie les jeunes et les conduit au ciel. Le 14 août 1942, il va les pieds nus, lui, la soutane serrée par un ceinturon, comme avaient les jésuites dans le temps, dans les rues torrides du Puy, lors du chemin de croix des 10 000 pèlerins, puis sa voix qui est claire, précise le but du pèlerinage de réparation et de supplication pour la libération du pays, la paix puis l'union des Français. Et ce chemin de croix en pleine ville où se presse toute la population bouleversée rappelle à tout le monde que par-delà la mort vient la résurrection et en l'occurrence la liberté de la France. Le soir du 15 août, jour de la fête de l'Assomption, grande fête en France, grande fête chômée, le père Doncoeur enseigne aux jeunes un chant qu'il vient de composer. Ça peut nous faire sourire aujourd'hui. Sois fier de ton nom, ô fils de France, redresse-toi. Chante à plein cœur ton espérance, France vivra. Je sais pas si on pourrait chanter ça ici. Chante à plein cœur ton espérance, Québec vivra. Puis, il invite les jeunes à renouveler leurs promesses. Il ne cache pas que de durs moments les attendent. Mais il leur dit bien... qu'en toutes circonstances, ils pourront toujours compter sur Jésus-Christ et qu'en lui, ils puiseront la force d'affronter les difficultés et le courage de mener les combats contre eux-mêmes d'abord et pour le salut de leur pays. Après cette manifestation du Puy, c'est ce que raconte le fameux père Riquet, prédicateur à Notre-Dame, autre jésuite éminent, mais le père Doncoeur devient suspect même aux autorités de Vichy et plus encore aux Allemands, puis il se retire à Notre-Dame, D'AY, puis il revient à Paris, aux études, à la revue. Au printemps de 1943, il anime un pèlerinage de jeunes à Chartres, un pèlerinage de l'espérance, un pèlerinage de la résolution, un pèlerinage de la résistance. Il y a toujours des pèlerinages de jeunes chaque année qui se rendent à Chartres. Il nous faudrait comme ça des grands pèlerinages de jeunes étudiants d'université et de nos collèges. On en a eu pendant un certain temps. Il faudrait ressusciter ça, avoir des jeunes qui ont la foi. Il hérite d'un petit château Troussure, près de Beauvais, où je suis déjà allé faire une retraite. Et Troussure a été pour lui ensuite le meilleur des asiles. Il va en revenir à bicyclette ou à pied, avec sa soutane toujours, pour être à Notre-Dame de Paris le 26 août 1944 et chanter avec le général de Gaulle le Magnificat de la Libération. Le père Paul Doncoeur a vu naître. Il a vu s'épanouir chez les cadets et dans le scoutisme, de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Il a aidé des foyers issus des mouvements de jeunesse à appliquer leur christianisme, oui, appliquer leur christianisme aux réalités concrètes de leur vie ordinaire, puis à puiser largement, largement, dans les richesses du sacrement de mariage. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est, souvent on dirait le sacrement de mariage, où le Christ devient vivant au cœur des époux pour les unir dans son amour. Pour lui, le Père Doncoeur, c'est dans le mariage que va cesser la séparation de l'Évangile et de la vie proclamée par le laïcisme. C'est là que va s'opérer une réintégration rédemptrice de tout l'humain dans le divin. C'est dans le mariage qui est bafoué aujourd'hui. On s'imagine qu'on peut s'accoter à volonté comme ça. Nommé aux études en 1920, le Père Paul Doncoeur va assurer pendant près de 40 ans, écoutez bien, la responsabilité du bulletin de liturgie pratique, puis la chronique de la vie catholique contemporaine. C'est un grand bonhomme que le Père Doncoeur. Les historiens du renouveau liturgique en France reconnaissent dans le Père Doncoeur un pionnier, puis l'importance aussi de son action. D'ailleurs, pourquoi les catholiques demeurent-ils étrangers à la liturgie? Il répond, parce qu'elle se présentait encore dans les années 20, sous les espèces d'un rubricisme et d'un chartisme ou d'un esthéticisme de médiocre saveur religieuse et humaine. Il fallait transporter le livre à droite puis à gauche, faire des saluts, faire ci, faire ça, faire je sais pas combien de signes de croix et tout ça. Ça ennuyait les gens qui ne pouvaient pas participer à la messe. Ayant constaté cette situation en 1921, le Père Doncoeur s'emploie à ce que le peuple fidèle abandonne toutes sortes de dévotions comme la récitation du chapelet pendant la messe, des dévotions sans fondement scripturaire, et il alimente sa vie religieuse à la prière même de l'Église. Alors d'abord par la participation à la messe. Il propose donc que le rite de la messe soit ramené à ses origines, que les assistants deviennent des participants, dialoguant avec le prêtre, les prières dites alors au bas de l'autel par le prêtre puis son petit servant de messe. Iudicam edeo sed cirne causandeam digente non sancta abominim quo illuso eruguem. Fini. Il veut aussi qu'on chante la messe solennelle, le Gloria et le Credo. C'était en latin, mais on avait des missels. On pouvait suivre le texte français quand même et chanter ça d'une seule voix. J'ai chanté le credo en 1950, le jour de Pâques, sur la place Saint-Pierre avec 1 million de personnes de toutes les parties du monde. Ah, c'est un des plus grands moments de ma vie, en latin. Ah, c'était d'une beauté. Il dénonce, Père Doncoeur, les offices maussades, le subi par les enfants, puis qui sont aussi délaissés par les hommes, il n'y a que des femmes. Il mène aussi une campagne en faveur du missel de Don Gaspard Lefebvre. Vous souvenez-vous de ce gros missel qu'on transportait avec soi pour aller à l'église et qui venait de paraître et qui va être celui de toute une génération? Et ses articles retiennent l'attention des spécialistes, mais ça trouve peu d'écho dans les paroisses. Hein, les pauvres paroisses, qu'elles ont donc de la difficulté? Pourquoi les paroisses ne parlent pas plus souvent de Radio Ville-Marie et aux besoins de rencontres spirituelles puis des 8-5 pour réanimer les foyers, les enfants? Ah, si on parlait de s'enchères de temps en temps, une fois par 3 mois. Comment opérer un changement? En 1923, il a été bouleversé, le Père Doncoeur, en entendant en Allemagne les jeunes catholiques répondre d'un même élan aux prêtres. Il comprend que la messe dialoguée est la formule naturelle de la messe communautaire. Si nous savions dialoguer nos messes et prier vraiment. Conscient de la déchristianisation des messes populaires, et de l'impossibilité où se trouve le peuple de pénétrer d'emblée dans le mystère de la liturgie, ben le Père Paul Doncoeur, il invente, en 1926, des premières paraliturgies avec les Noël routiers, ces scouts d'un certain âge, ce qu'il appelle une liturgie du seuil. C'est simplifié à l'extrême, mais c'est intelligible à tous. Et dans les cahiers Sainte-Jeanne, les retraites de foyers, il révélait aux jeunes foyers chrétiens la nature du baptême, comme on fait maintenant de plus en plus dans nos paroisses. Et il les invitait à débarrasser sa célébration des baptêmes de toutes sortes de mondanités superflues. Cessons de faire de nos baptêmes des fêtes idiotes où on boit trop. Et peu à peu, ces foyers tentaient un effort de recherche de style de vie conforme à l'esprit de l'Évangile. Ils étaient en brisant avec l'individualisme desséchant puis le conformisme mondain que ces foyers chrétiens adoptaient tant dans leur vie quotidienne qu'au grand moment de leur existence, une manière d'être inspirés dans leur foi. On priait dans les maisons, comme les Juifs le font, Qu'est-ce qu'on attend pour prier dans nos maisons, pour fêter nos fêtes, etc., pour faire des choses? Il a tout créé ça, il y a des livres là-dessus, mais on dirait que tout ça est tombé en désuétude. Après avoir inventorié toutes les richesses du baptême, le Père Doncoeur a tout fait pour restaurer l'antique vigile pascale. C'est lui qui est à l'origine de ça, autorisé par son évêque de Beauvais, près de Troussure. Il la célèbre pour la première fois dans la maison familiale de Troussure en 1945, soit 6 ans avant la décision de Rome. Et qu'est-ce qui lui arrive? Des belles choses. Le 7 mai 1951, il reçoit une lettre de Pie XII qui lui dit « Sachant, mon père, la part importante qui vous revient personnellement dans le renouveau liturgique en France au cours de ces dernières années, je saisis cette occasion de vous en féliciter. » Le père Paul Doncoeur a écrit la préface, vous ai-je dit, de ce gros et gros magnifique livre, Le vrai visage des saints de l'abbé Chamond. C'est 150 portraits de saints que vous avez peut-être dans votre bibliothèque, paru en 1955 chez Desclés de Brouwer. Il écrit les saints, possédés de Dieu, laissaient passer sur leur front, dans leur sourire, dans leurs yeux, la bonté, la candeur, la miséricorde et par-dessus tout, la paix divine qui subjuguait les bandits attaquant François d'Assise. Oui, il faudrait encore évoquer peut-être ce beau visage du père Paul Doncoeur et ses savants travaux sur Jeanne d'Arc. Il faudrait rappeler ses appels magnifiques aux vocations sacerdotales. Il y en a peut-être qui m'écoutent devant des ordinateurs. Allez-vous rester devant des ordinateurs dans une banque ou dans une compagnie jusqu'à la fin de vos jours? Si vous n'êtes pas marié, ça vous dirait pas de devenir un père Doncoeur? Faudrait parler des retraites aussi qu'il organisait à Troussure. C'est dans l'Oise, près de Beauvais. Ça dure encore, je crois. C'est le chanoine Caffarel qui a suivi le père Doncoeur à la tête de Troussure. Le père Doncoeur a organisé à Troussure des journées de réflexion sur les problèmes que doivent affronter les chrétiens dans le monde de l'après-guerre. On a vu là, qui participait à ces réunions, son grand ami jésuite, le père Teilhard de Chardin. Mais c'est finalement dans cette maison de Troussure qu'il meurt le 21 avril 1961, le père Paul Doncoeur. L'apport capital du père Doncoeur a été de présenter à une génération le christianisme comme une fantastique invitation à vivre. Le christianisme, d'après lui, écoutez bien ça, n'est ni un code, comme ça semble l'être un peu chez les juifs et les musulmans, ni un catalogue de défense, ni une philosophie morose du renoncement, comme ça l'a été dans notre religion pendant longtemps. Mais c'est l'abandon total à Jésus-Christ. L'abandon total à Jésus-Christ, par amour. Le découvrir, lire les évangiles, méditer, rester à genoux devant une hostie exposée chez les Pères du Très-Saint-Sacrement dans l'ostensoir. Regarder, aimer, se laisser pénétrer par Jésus-Christ, surtout par les évangiles. Et qu'est-ce que veut le Père Doncoeur? Bien, il veut rejeter les contrefaçons du christianisme, que sont une religion le prudente, niaise, habile, viciée aussi par les comportements mondains. Il veut opposer au paganisme de la jouissance, de la violence, la simplicité puis la charité du Christ. Considérer la vie humaine comme une marche vers Dieu, c'est tout? Oui. Voilà ce qu'il propose, le Père Doncoeur. En plaçant les jeunes dans la perspective, non d'un Christ mort, mais d'un Christ vivant. Un Christ vivant. On peut contempler le Christ mort sur le linceul. Mais c'est pour mieux comprendre la route qui mène à la vie. Il a débarrassé des milliers de gens du jansénisme étriqué, qui imprègne encore malheureusement le catholicisme, en ouvrant des perspectives exaltantes là, d'un christianisme enthousiasmant, car le christianisme, il n'y a rien de plus enthousiasmant sur la terre. Je le répète, il n'y a rien de plus enthousiasmant sur la terre que le christianisme. Car le christianisme, je vous le dis, je vous le répète, je ne vous le répéterai jamais assez, seul capable de combler notre besoin d'épanouissement physique, intellectuel et évidemment surtout spirituel. On ne fera jamais rien de notre pays, puis de notre monde et de notre civilisation sans le Christ. Je me suis inspiré en bonne partie d'un texte de Jean Peyrade, paru dans Figure catholique du XXe siècle, paru chez Pierre Tequi, un joli petit volume, publié il y a un an à peine. Il l'a connu, Jean Peyrade, il l'a connu, le Père Doncoeur. Il rappelle la célèbre formule du Père Doncoeur, « Splendeur humaine par un christianisme intégral », qui signifie, je vous le rappelle, que régénéré par l'eau du baptême, branché sur Jésus-Christ par l'Eucharistie, nourri de sa parole par la lecture tous les jours là, de l'Évangile. Laissez un Évangile à côté de votre lit, puis lisez ça avant de vous endormir. Relisez en vous levant. Ainsi nourri par la parole, eh bien, nous pouvions établir et maintenir en nous un équilibre, disait le Père Doncoeur. Une harmonie du corps et de l'esprit est donc un christianisme, qu'un christianisme vigoureux peut assurer l'épanouissement corporel, intellectuel et spirituel de tout notre être. Il n'y a, selon le Père Doncoeur, de vie puissante et belle que celle que le Christ a pénétrée. Je le répète, il n'y a de vie puissante et belle que celle que le Christ a pénétrée. Ou encore, il dit, « Vrai chrétien, vous serez homme splendide et bienheureux. » Il faut être humble et bon, tendre, patient, plein de compassion pour tout le monde. La compassion, ce n'est pas le monopole du Dalai Lama, loin de là. La compassion, la tendresse. Le Père Doncoeur a suivi à la lettre la consigne impérieuse de son maître Saint-Ignace de Loyola. Qu'est-ce que c'est? Connaître intimement la personne du Christ pour l'aimer ardemment, afin de le suivre plus fidèlement. Ah, j'aimerais vous parler de lui encore bien longtemps, puis de revenir sur l'attachement de notre population québécoise à l'école catholique qui demeure indéniable. Plus significative se trouve dans le fait que 90% des écoles créées au Québec depuis 20 ans ont demandé d'être reconnues comme écoles catholiques, à la suite des consultations auxquelles ont participé en moyenne 80% des parents concernés. Le savons-nous? Le savons-nous?